Continuons tout en douceur avant de nous parler dans les autres émissions, plus précisément de livres de philosophie. Il a choisi cette fois de nous parler de la philosophie en général.
Avant tout discours, avant donc toute parole philosophique, puisque toute parole philosophique se meut dans un discours, de quelque nature que cette parole soit, et surtout, bien sûr, avant la dialectique, que ce soit celle de Platon ou son aboutissement chez Hegel, donc avant toute dialectique, puis avant la logique qui a construit, et ce de plus d'une manière, notre monde moderne et son histoire, notre histoire, avant le départ et l'élan de la pensée, et au sein de celle-ci, il y a la parole, le discours, le langage, tous tirant leur essence d'un seul endroit. Il est donc important de commencer nos émissions sur la philosophie par une considération globale de ce qu'est le langage et la langue pour nous, qui y trouvons et trouverons le site de nos élucidations et notre questionnement philosophique. Il est évident que nous ne saurons pas faire une étude détaillée maintenant sur le langage ou bien sur la parole dans toute leur étendue et l'histoire interminable, leur histoire interminable, jalonnée d'études diverses, qu'elles soient celles des Grecs, telles bien sûr déjà le travail chez Platon sur l'écriture, je pense en particulier au Phèdre et à l'amour réhabilité dans le Phèdre par la relecture au moins de Derrida, lié au langage. Je pense aussi, bien sûr, au grand art de la rhétorique chez Cicéron, chez les Romains, les projets aussi de grammaire du Moyen-Âge, le travail de linguistique du XIXe et XXe siècle. Je pense, bien sûr, à Ferdinand de Saussure, Benveniste, mais aussi, bien d'autres, aux sémiologues, puis, bien sûr, à la philosophie du langage, telle qu'on la retrouve chez Wittgenstein, puis dépassée, d'une certaine manière, par Derrida. Enfin, voilà, nous ne saurons considérer toutes ces pensées d'un seul coup. Cela est évidemment impossible. Nos propos se résumeront plutôt, au moins pour aujourd'hui, et c'est ce qui est intéressant, à donner quelques commentaires, puisque nous commençons ces émissions sur l'origine de la langue, pour débuter avec cette origine, avec elle, avec la langue, et ouvrir l'horizon de nos réflexions à l'avenir. Je propose donc de considérer ce qui est devenu pour nous la langue, ou plutôt le mot qui désigne la langue et toutes ses manifestations dans notre vie courante. Il s'agit d'abord, vous l'aurez deviné, du terme grec « logos ». L'importance de ce mot se voit dans toute l'histoire de la pensée méditerranéenne. J'insiste bien sûr qu'il s'agit pour nous toujours de cette pensée méditerranéenne et non pas juste occidentale, surtout en parlant des Grecs. Donc ce logos a donné notre signifiant pour la langue, pour la logique, et donc, bien sûr, pour ce que nous appelons aujourd'hui notre manière de penser. Nous traduisons d'habitude ce mot par parole et par raison. Prenons logos et nous le traduisons par parole et par raison, en l'abordant dans son sens grec. Or, les deux sens-là sont liés intimement, et surtout chez les Grecs, et ce, parce qu'ils parlent depuis une même origine, à savoir la signification première du logos, qui est l'expression nominale, le logos étant un nom commun, qui est l'expression donc nominale du verbe grec legein. Celui-ci nous dit beaucoup sur l'essence commune et inséparable de la langue et de la pensée. Il désigne, le mot legein, désigne le fait de rassembler ce qui est là devant soi, c'est-à-dire avant toute objectivation moderne, rassembler ce qu'on rencontre. C'est là le legein. Ainsi, la puissance active et le rôle du mot ororal deviennent clairs. Le mot consacre en lui-même la rencontre avec les choses du monde, avec donc ce qui s'offre à l'homme avant toute conceptualisation, c'est-à-dire avant la réflexivité telle qu'on la retrouve chez Fichte. Il prend ce qui est là et le consacre comme tel, le place au sein des activités humaines. C'est là la parole. Rassembler, le rassembler du legein et de la parole, c'est sortir, puis ressortir une deuxième fois, toujours à nouveau. Aller vers ce qui est là, toujours différemment, le cueillir, et en le cueillant, en cueillir d'autres qui complètent son sens. Le rassembler du mot est donc le recueillement, la pensée. Nous trouvons en allemand, par exemple, ce sens dans la lecture ou le lire, le lesen. Or, ce lesen, et là, nous pouvons reprendre Heidegger dans Unterwegs zur Sprache, l'acheminement vers la parole. Donc, ce mot lesen est lié au substantif lese, qui veut dire, et tous ceux qui boivent du vin allemand le sauront, qui veut dire précisément la récolte et les vendanges, et donc le cueillir et la terre. Lire, c'est cueillir ce qui cueille déjà. Pourquoi nous disons cela ? Parce que le mot cueille. Et lire, c'est cueillir des mots. Donc, lire, c'est cueillir ce qui cueille déjà. Le mot, le lire et le dire est un se recueillir. L'essence de la langue est donc dans le silence. Elle émerge, rassemble sur fond de silence. La langue n'est pas un simple moyen de communication, mais le centre ou l'essence depuis laquelle ce qu'on appelle moyen de communication peut naître, tributaire d'elle. Ou pour parler comme Aristote, on peut dire que la langue, comme un se recueillir et rassembler, est un genre pour l'espèce qui est la communication et tout ce qui en dérive. Surtout lorsque celle-ci, la communication, fait de la langue un moyen vers autre chose, c'est-à-dire un objet. Voilà pour le logos. Et pour continuer aussi sur ce thème, j'aimerais qu'on pense ensemble au mot arabe pour la langue, à savoir al-lugha, un mot qui englobe en général al-kalam, ou la parole, qui aura d'ailleurs une autre destinée, celle-ci très théologique, et se rapprochant de la dialectique ainsi que du verbe chrétien que nous ne pourrons pas aborder aujourd'hui. Puis, tout ce qui se rapporte à la langue, dont la littérature, la linguistique, l'étymologie, et ainsi de suite. Tout ça est dans le terme al-lugha. Or, il faut savoir que dans la langue arabe, comme dans d'autres langues sémitiques d'ailleurs, presque toutes, tous les mots, presque sans exception, dérivent d'une racine à trois lettres. On prend par exemple le mot darasa qui veut dire apprendre. Si on ajoute mudaris, ça devient l'enseignant. Daris, ça devient celui qui apprend, etc. Et c'est le cas aussi, bien sûr, du mot lugha, al-lugha, qui dériverait, dans ce cas-là, de lara. Donc encore une racine à trois lettres, à savoir el, ra et a, ou de alra, qui veut dire, en fait, annuler. La racine, donc, de ce qui désigne la langue, la racine de la langue, et de tout ce qu'elle signifie, de tout ce qui en dérive, et le refus, ou on peut dire le remettre au silence, la garde donc du silence. Nous retrouvons la même chose qu'on a eue dans l'allemand et dans le grec. Nous retrouvons encore une fois ce retrait qui détermine le sens même du dire, quelle que soit son origine et sa fin ou sa finalité. Partir du langage, puis y rester, y demeurer si l'on veut, c'est entrer dans ces espaces originellement, c'est approcher tout ce qui va s'y déployer pour nous, à savoir les considérations sur la métaphysique, l'esthétique, l'éthique, l'art, l'histoire, etc., etc., en sachant que tout se fait depuis un retrait constant, qui ne s'abandonne jamais aux propositions logiques, ou pas à ces propositions seules, et reste ouvert non seulement à ce qui se donne dans la parole de chacun de ces domaines, mais à ce qui octroie cette parole elle-même. Nous laissons ainsi nos propos ouverts à l'invention, à l'intuition, au sens kantien ou bergsonien si l'on veut, et aux possibilités du discours pluriel tel qu'on le retrouve par exemple chez Habermas. Nous terminons sur ces mots de Wittgenstein du Tractatus Logico-Philosophicus, écrit dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, « Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. » Les limites de ma langue signifient les limites de mon monde. Puis, « Die Logik erfüllt die Welt. Die Grenzen der Welt sind auch ihre Grenzen. » La logique remplit le monde. Les limites du monde sont aussi ses limites. C'est ce jeu entre la logique et la parole et la langue que nous abordons et nous aborderons dans ces émissions.
Nous passons maintenant à la revue de presse littéraire. Cette semaine, l'actualité des livres dans vos journaux est marquée par deux faits. La fermeture du